Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin après quelques jours de repos. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Moïse Moussangana. Il est journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Les Potentiels. Il est ancien DG de CKTV. Il est également chercheur en matière électorale. Bonjour, monsieur Moïse Moussangana.
Bonjour, Guy Maté.
Madame Nathalie Kambala-Lousset, elle est membre du cadre des consultations de la société civile du Kasaï Central. Elle est directrice des pays de l'ONG dénommée Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMEDI en sigle. Bonjour Madame Nathalie Kambala.
Bonjour Guy Maté, bonjour les co-débatteurs et les auditeurs de la radio Okapi.
Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kimayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kimayou.
Bonjour Guy, bonjour tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Moïse Moussangana. Il est journaliste et professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV. Il est chercheur en matière électorale. Madame Nathalie Kambala-Lousset, elle est membre du cadre des concertations de la société civile au Kasaï Central. Elle est directrice pays de l'ONG dénommée Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMEDI en sigle. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kimayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Au menu de cette émission, analyse de la composition du gouvernement souminois sur fond des polémiques au sujet de son investiture. Poursuite des combats entre les FRDC et les M23 pour le contrôle de Kanyabayonga au Nord Kivu. Et enfin, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo propose le remplacement de la CENI par une commission électorale internationale. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur le nouveau massacre des civils à Beni. En effet, 16 civils ont été tués mardi 4 juin lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des EDF à Massaou, un village du secteur de Beni Mbaou dans les territoires de Beni au Nord Kivu, a rapporté mercredi 5 juin la société civile locale. Plusieurs autres personnes sont portées disparues. La société civile locale indique que les rebelles des EDF ont profité de la relève des militaires FRDC à Massaou, une entité où se trouvaient seulement deux policiers, pour attaquer la population locale. Jeudi 6 juin, 5 nouveaux corps de civils ont été découverts dans les villages voisins de Mounouzi et 7 autres sur la rivière Loulo. Ces derniers ont été ligotés avant d'être tués. Au total, ce sont 35 civils qui ont été tués en 3 jours dans des attaques attribuées aux rebelles des EDF dans les territoires de Beni. La société civile du secteur de Beni Mbaou dit être exaspérée par cette situation. Elle demande à l'armée de lancer de toute urgence des opérations pour sécuriser la population dans la région. Moïse Moussangana, énième massacre des civils à Beni, 35 personnes exécutées en 3 jours. Est-ce qu'un jour on mettra fin à ce cycle infernal dans les territoires de Beni?
Écoute, il faut y mettre absolument fin, parce que ce ne sont pas des chèvres qu'on tue, ce sont des hommes, ce sont des Congolais qu'on tue comme ça depuis belle lurette. il faut absolument que cette situation connaisse une fin un jour. Et pour cela, il faut que nos services de sécurité montent en puissance. Mais il faudrait savoir d'abord que les EDF et consorts, ils sont en train de mener une guerre asymétrique. Donc ce sont des terroristes et il n'y a pas de front où il y a deux camps qui s'affrontent. Mais ce sont des gens qui attaquent par ruse, qui attaquent par surprise. Et ce n'est pas avec les techniques régulières, traditionnelles, qu'on arrive à bout des terroristes. Il y a bien sûr des techniques adaptées pour cela. Et je crois que nos militaires et les autres forces de la défense doivent être entraînés à ce genre de combat. Parce que comme je venais de le dire, il n'y a pas de front. Vous ne voyez pas l'ennemi. Vous ne savez pas qu'il est à quelle distance qu'on sort. L'ennemi n'a pas un campement permanent. Il change à tout moment. Et puis, c'est un ennemi avec lequel on vit. Parce que, rassurez-vous, les EDF ont leurs antennes auprès de la population, même si ils ne recrutent pas dans la population. Donc voilà, ils vivent avec la population, ils connaissent les mouvements de la population, ils connaissent les mouvements des militaires et consorts, et ils savent comment intervenir.
Merci, Madame Nathalie Kambala. À Massaou, cette entité où ont été tuées 16 personnes, il n'y avait que des policiers. Et dans beaucoup d'autres localités où il y a eu des morts, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de militaires. Alors qu'on voit, comme par exemple les Kinshasa, vous voyez beaucoup de policiers qui circulent, vous voyez beaucoup de civils, n'est-ce pas, qui ne sont même pas menacés, mais qui ont une garde composée d'une trentaine de policiers pour une seule personne, mais des zones rouges, des zones où la menace est permanente, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires. Et certaines personnes commencent même à dire que tout cela donne l'impression que cette population de cette partie du pays, donc le Grand Nord à Béni, c'est une population qui est abandonnée à son triste sort. Votre commentaire.
Merci beaucoup, Guy Maté. Je voulais d'abord présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Je pense que ça continue à faire mal. Et pendant que je ne sais pas, d'ailleurs, mon cœur est plein de rancœur. Et je dénonce encore ce énième massacre de Béni, considérant qu'il s'agit vraiment d'une lâcheté et même de l'irresponsabilité de nos autorités, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain nous nous réveillons avec ce genre de massacre. Je continue d'ailleurs à me demander pourquoi les rebelles ont toujours tendance à s'attaquer aux civils. À ce stade, je pense que l'État congolais doit s'assumer. Et ce que vous venez de dire, c'est quand même anormal de voir un individu qui est gardé par plus d'une personne ou plus de militaires pendant que nous avons des coins au pays où il y a la guerre, où on tue les civils comme ça, comme des animaux. Et je me pose aussi la question de savoir, si vous regardez les pays même qui attaquent le Congo, vous n'avez jamais entendu que les civils sont tués là-bas, mais pourquoi ici on s'attaque directement aux civils? Et donc, il est important de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger cette population civile. Et je voulais recommander aussi même à la MONUSCO de prendre des dispositions pour protéger les déplacés, parce que là, vous avez parlé aussi de déplacés, et surtout les femmes et les enfants qui ne savent pas à quel sein se vouer. Et à un certain moment, je me dis, ce silence aussi de la communauté internationale qui abandonne quand même la RDC, c'est vrai, les voix s'élèvent par-ci, par-là et occasionnellement. Mais moi, je me dis que ça n'est quand même de trop pour notre pays de voir tous les jours comme ça, en 3 jours, tuer 35 personnes comme ça. Vraiment, je dis, j'interpelle encore les autorités à tous les niveaux, vraiment, que leur regard soit fixé à l'est du Congo, à Ituri, à Béni, et j'ai compatis avec toute la société civile, tout en saluant le président qui a dénoncé. Vraiment, ça n'est de trop, ça doit s'arrêter. Le Congo a besoin de la paix, on doit sécuriser l'est du pays pour que l'ennemi ne puisse pas encore continuer à tuer et endeuiller des multiples populations dans notre pays.
Merci. Merci, Louis Magloire Temayou. Dans cette partie de la province, les opérations conjointes FRDC et UPDF sont en cours depuis environ 2 ans, mais cela ne dissuade nullement les EDF. On se rappelle que même dans les Sahel, c'est presque la même situation qui est vécue. Hein. Les moyens militaires déployés depuis plusieurs années n'ont jamais suffi, n'est-ce pas, pour réduire la capacité de nuisance des mouvements rebelles, des mouvements djihadistes. C'est chaque semaine qu'on apprend la mort des populations civiles. À votre avis, au-delà des opérations militaires, y a-t-il d'autres approches qui peuvent être mises en œuvre, n'est-ce pas, pour espérer obtenir des résultats escomptés, pour espérer sécuriser efficacement la population?
Il faut qu'on arrive à trancher véritablement entre qui fait les commentaires et qui agit. Parce que j'ai l'impression que depuis une trentaine d'années, tout le monde se complaît aujourd'hui à commenter l'actualité de la RDC. Que ce soit les populations, que ce soit les autorités, ou que ce soit même parfois les partenaires internationaux ou les voisins, tout le monde se contente de commenter l'actualité. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui agit, et qui agit pour, dans le sens des intérêts des populations, pour soulager leur peine, et pourquoi pas, pour rétablir l'autorité de l'État. Et je crois que tant qu'on n'aura pas résolu cette équation, nous resterons dans une situation qui est très peu confortable et qui est surtout une attitude de spectateur qui ne grandit personne et qui aggrave la souffrance des populations civiles. Moi, je pense que à un certain moment, aussi bien les populations que les autorités congolaises ont estimé que ni les voisins, ni l'Union africaine, et encore moins l'Organisation des Nations Unies à travers la MONUSCO, ne pouvaient être la solution à ce problème. C'est un commentaire qui s'entend. Mais une fois qu'on l'a dit, il faut se donner les moyens d'agir. Et les moyens d'agir, je n'ai pas l'impression qu'ils manquent aujourd'hui. Parce que quand on voit la rémunération des hommes politiques et qu'on la compare avec ceux qui vont sur le terrain pour prendre les coups, pour tirer par moment, l'écart de rémunération est tel qu'il y a une disproportion scandaleuse. Il faut donner les moyens à ceux, aux soldats, en l'occurrence, les forces de défense et de sécurité, il faut leur donner les moyens d'agir sur le terrain. Les députés et autres élus font leur travail, mais ils sont très bien payés pour cela. Mais quand on voit aujourd'hui que entre 200 $ et 20 000 $, il y a un écart, je crois que ça pose également problème et que ça fait que l'instrument qui pouvait être utilisé pour rétablir la paix, la sécurité, la confiance et l'autorité de l'État, cet instrument, il est mal entretenu. Je parle des forces de défense et de sécurité. Et donc, si on ne résout pas ce problème, on aura beau commenter, dans 50 ans, dans 100 ans, nous en serons toujours au même point de départ, c'est-à-dire celui de constater qu'il y a des incursions qui sont menées, que des civils perdent la vie et que l'État a perdu le contrôle dans ces zones-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'injonction revient aux politiques, celle de dire, si pendant 30 ans, les solutions proposées n'ont pas marché, il faudrait peut-être s'asseoir pour réfléchir autrement, en faisant venir les hommes de terrain, les militaires, les policiers, la population également, pour leur expliquer, pour discuter avec elles et trouver peut-être les voies et moyens qui manquent aujourd'hui pour éradiquer la menace terroriste, qui est certes une menace qui n'a pas de visage, mais qui peut être combattue. Il y a des pays qui ne sont pas formés à cela, mais qui arrivent quand même à produire des résultats. Je ne veux pas être dithyrambique sur les soldats, mais je crois que si on leur donnait une partie des moyens qu'on accorde aujourd'hui aux politiques, y compris en termes d'escorte sur les terrains de combat, ils arriveraient à régler les problèmes. Donc, mettons les choses dans le bon ordre, mettons les bœufs, mettons la charrue après, et je pense que tout s'enclenchera dans le bon ordre et que les résultats seront obtenus.
Merci, on prend une petite pause avec cette chanson d'espoir Chiquitita de Abba et on revient juste après.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in chains. Yeah. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on.
C'était Tikitita, cette chanson d'espoir du groupe musical suédois ABBA, une façon de dire aux habitants des Bénis qu'ils gardent espoir, il arrivera un moment où la paix redeviendra une réalité dans cette partie du pays. On revient à l'actualité de cette semaine. Clôture mercredi 5 juin, tard dans la nuit, des concertations initiées par le président de l'Assemblée nationale en vue de l'investiture du gouvernement souminois. Vital Kamerhe s'est félicité d'avoir balisé le chemin avec une majorité parlementaire consolidée et favorable. Il a affirmé que son bureau a obtenu l'équitus de la majorité parlementaire pour l'investiture du gouvernement souminois. Il y a quelques jours, deux tendances se sont opposées au sein de la Chambre basse du Parlement. La première est celle qui s'opposait à l'investiture du nouveau gouvernement, poussant la raison d'une mauvaise sélection des ministres par la chef de l'exécutif national. L'autre tendance est celle qui soutenait mordicus l'investiture du gouvernement par les parlements. C'est le mercredi 29 mai que le gouvernement Judith Souminois était publié. C'est une équipe qui est passée de 57 à 55 membres, une réduction d'environ 6% par rapport au gouvernement Samalou Kondé. Il compte 18 femmes, ce qui représente une moyenne d'environ 32% pour la représentation féminine. La nouvelle équipe gouvernementale compte 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Madame Nathalie Kambala Lousset, membre du cadre de concertation de la société civile du Kassai Central, et vous êtes directrice pays de l'ONG dénommée Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMEDI en sigle. Vous avez souhaité analyser la composition du gouvernement souminois sur fond des polémiques au sujet de son investiture. On vous écoute.
Je veux féliciter Son Excellence Madame Judith, Première ministre, pour sa détermination à s'inscrire dans une dynamique du changement tant souhaitée dans notre pays, en début bien sûr de certaines contraintes d'ordre politique. Je salue aussi son courage quand même dans la nomination de membres de son équipe. Et s'agissant même de la composition, j'étais vraiment très émue de voir la présence remarquable de femmes. C'est un bel exemple à donner à la face du monde, même si on n'a pas atteint 50%. Mais quand même, c'est un grand pas qu'on a franchi d'avoir aujourd'hui 18 femmes, 32%. Moi, je pense que les fleurs sont vraiment à jeter à la première ministre. Je lui souhaite un fructueux mandat ainsi que d'autres femmes qui font partie de cette équipe gouvernementale. Nous lui assurons l'accompagnement indéfectible pour la réussite de son mandat. Je voulais aussi dire merci au président de la République qui est champion de la masculinité positive, parce que je sais qu'il s'est investi aussi pour la présence des femmes. Mais quant aux polémiques, je pense que vous êtes sans ignorer que tout le jour ici, que ce soit dans le pays, en dehors du pays, on ne fait que parler de la polémique. Et à un certain moment, moi personnellement, ça m'a beaucoup inquiété. Parce que déjà, on sent que les polémiques autour d'abord des quotas, il y a des provinces qui ont présenté les mécontentements comme s'ils étaient des moins servis. Il y a des partis politiques ou regroupements politiques qui ont aussi menacé même de boycotter l'investiture du gouvernement parce que certains de leurs partisans ne se sont pas retrouvés sur la liste des nominés. Il y a aussi la présence remarquable des anciens ministres. Nous avons vu aussi Maniema qui a rebondi pour dire que malgré qu'il y a, quand même la présence de gens au gouvernement, Maniema a été oublié totalement. Aucun ministre qui est ressortissant de Maniema. Aujourd'hui, c'est une dame qui est chef du gouvernement. Je pense que c'est depuis l'indépendance de notre pays. C'est la première fois. Alors, mon inquiétude était que pourquoi toutes ces barrières, pourquoi toutes ces contraintes, pourquoi toutes ces difficultés autour de d'abord de la sortie du gouvernement. Vous avez vu que ça a pris du temps. Et le temps que ça a pris, c'était des concertations et des concertations. On pensait que après la publication du gouvernement, directement, c'est le travail qui doit commencer. Mais malheureusement, on voit que malgré que le gouvernement a été publié, il y a toujours des insatisfaits. Et ça, c'est un danger permanent de notre pays. On a d'abord beaucoup de défis à relever. Guy, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un pays où l'insécurité bat record. Nous n'avons pas du courant, nous n'avons pas de l'eau, une grande partie du pays. Je pense que c'est à peine qu'on commence un peu à se battre avec des petits projets. La réhabilitation de routes de desserte agricole, il n'y en a pas. Il n'y a pas de routes qui sont reliées, surtout à des provinces un peu le plus reculées. On a un problème d'insécurité alimentaire, même le social de Congolais. Alors, tout ça, ce sont des défis qu'elle a trouvés. Elle n'a pas du temps à perdre. Il reste pratiquement 4 ans et quelques mois. Mais voilà que les partis, l'Union sacrée, qui devait la soutenir, qui devait être dans sa vision, sauf la vision de chef de l'État, et c'est le même personne qui se sent insatisfait et chacun veut se voir dans ce gouvernement. C'est inquiétant et je me dis, quel peut être l'avenir ou qu'est-ce que nous voulons léguer à la jeunesse aujourd'hui qui veut aussi accéder à la politique. Voilà un peu mes petites analyses, les premières analyses par rapport au thème que j'avais choisi. Merci.
Merci Moïse Moussangana, journaliste professionnel. Vous êtes ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV. Vous êtes chercheur en matière électorale. On a suivi, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé avoir obtenu le quitus de la majorité parlementaire pour l'investiture du gouvernement souminois. Mais on sent beaucoup de frustration, on sent beaucoup de préjugés. Et même une sorte de sentiment, n'est-ce pas, de vengeance de la part des députés de la majorité présidentielle. Est-ce que ce n'est pas finalement l'Union sacrée elle-même qui va constituer la vraie opposition au gouvernement souminois?
Oui, Guy Maté, vous savez, il y a Mme Lousset qui a parlé de l'investiture sur fond de polémique. Ceci s'explique juste par une réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique, pour nous au Congo, a été toujours utilisée comme la voie la plus courte pour arriver à un standing, donc pour arriver à la mangeoire. C'est pourquoi tout le monde veut être là, pour manger aussi à son tour. Pourquoi pas faire profiter à sa famille, à ses enfants. C'est ça, il n'y a rien d'idéologique là-dedans. Quand vous voyez toutes les plaintes et qu'on sort, c'est du genre, non, telle province n'est pas représentée, mais vous allez voir dans les médias comme dans les réseaux sociaux, ce sont certains individus qui disent non, comme il n'y a pas Maniema, le prochain ministre c'est moi. C'est-à-dire que les gens s'identifient même aux populations des provinces, ils pensent qu'ils peuvent manger au nom de leur province. Or, de tout le temps, on a toujours eu des ministres qui sont de telle autre province. Est-ce que c'est pour autant que ces provinces-là sont allées de l'avant? Est-ce que c'est pour autant que ces provinces-là sont développées? Non. C'est pour vous dire que on va en politique en République démocratique du Congo. C'est là, c'est depuis 1960 jusqu'à ce jour. Ce n'est pas pour pouvoir résoudre le problème qui se pose à la société, mais c'est pour se servir, c'est pour manger, c'est pour avoir un certain standing. C'est pourquoi, pour que les choses marchent aussi dans ce pays, il faut un assainissement du paysage partisan. D'abord, vous avez plus de 1000 partis politiques dans un pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a 1000 idéologies? Je n'ai pas fait les sciences pour, mais à ma connaissance, je ne vois pas 1000 idéologies dans ce monde. Je voudrais dire, il y a notre confrère, mon confrère Kemayou, qui a comparé les salaires d'un ministre par rapport au salaire ce qu'un militaire touche. Des $100 et qu'on soit, quand on fait les ratios, on ne se retrouve pas. Or, ailleurs, il y a des fonctions qui payent plus que les politiques. Voilà, tout le problème est là. Il faudrait qu'on ait un autre concept du pouvoir, un autre concept de la politique. Tant qu'on aura dans nos têtes que la politique, c'est la voie qui nous amène à un standing élevé de vie, nous allons connaître toujours des frustrations, il y aura toujours des polémiques que dénonce Mme Lousset.
Merci, voilà. Merci. Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Parce qu'il y a déjà des préjugés au départ de la part des députés de la majorité présidentielle, le risque n'est pas que l'appréciation de l'action gouvernementale par ces députés soit subjective avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence.
L'image du partage de gâteaux est la bonne parce que c'est la sensation que nous renvoient les politiciens quand ils se disputent sur les entrées au gouvernement, les récompenses qui doivent être accordées aux différents partis qui ont accompagné la majorité présidentielle. Mais je crois que si on devait être réaliste, la représentation territoriale se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Elle peut être au niveau provincial également, mais c'est à ce niveau-là que se fait la représentativité. Le reste, au niveau du gouvernement, ça doit être des gouvernements soit de mission, soit de compétence. C'est-à-dire qu'on choisit les gens parce qu'ils sont les bons. C'est pas parce que ce sont des femmes, c'est pas parce que ce sont des militants qui ont soutenu l'action du président, c'est parce qu'ils sont capables, à leur poste, de démontrer qu'ils sont les meilleurs et que le benchmarking a permis qu'ils émergent et qu'ils viennent servir la population. Pas servir leur parti et encore moins se servir eux. Et malheureusement, on est encore dans un cadre politique chez nous où il faut récompenser ceux qui ont soutenu l'action du président, même quand ils sont médiocres, et par moments faire de la politique d'affichage pour permettre à certaines personnes d'avoir l'impression que la scène politique évolue. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et donc, pour moi, aujourd'hui, toutes ces polémiques stériles qui se font au détriment, encore une fois, des populations qui attendent des résultats concrets. Je crois qu'on ne va pas rester dans une situation de crise politique comme certains pays les ont connus, la Belgique pour ne pas la citer. Mais je crois que quoi qu'il arrive, une fois que le gouvernement aura été nommé, il sera validé et il entrera en action. Et tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit constitué des meilleurs à leur poste pour que les solutions soient trouvées aux problèmes auxquels aujourd'hui font face et le pays et les populations de la République démocratique du Congo.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. On va écouter Aminata Sila de JBM Piana, patron de l'orchestre Wenge Musica BCBG, à l'occasion de son anniversaire. C'était le 2 juin dernier. Nous souhaitons bon anniversaire donc à JBM Piana en écoutant un de ses classiques, Aminata Sila, et on revient juste après.
Yo, Nina. Oko saka ba misi me baleko salaka na courant. Meti lelo e balela kobe molili e pela kabunda te. Gina Kikunda, Isabelle Rivier, Jerry Bikuki. Aminata ma vie sans toi, et comme fragile, nous collabons ya ndunda. Ebale kabolinga na yo, na komi kokatisa, na singa ya suki ye ye ye. Lokola na lingi yo
aminata moniel sucré tika nandima etumba na banzoi yo nese andete na bomana kanata nguya moyi beto nangana lalela kanata ngwa butu ndakona nana bomana kasaki mula epa nopo aminata Awayoke na ya ma chéri o exposenga na ba intempéri pe ba danger mula moi esili nina na ndoto pose la kayo si la ya fundalanga na rampa ya misere voiture en destination ya bolingo na soa watie
Patrick Mbemba
Sila ye bisa baila ye ba Ese kanimi yoti ama Na yashi ya ba ponse na yo
Ebe e salo
Oko bisi na lo kala mokuka Eza nga frana de santa divo Tope tike a traye Yamoto asi a kombo
Pazzo.
Ci bebbia la vigna, bambo, 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 su canna, sella, Patrick e Bologna, che va, bambo, i te giallica, campo, botte, e giallice mozzala, e giallice maiele, e giallice bambo, toro, e giallice guana.
Anima, dai, e ti salva, dai, e va, e se cammini, io ti andrà, e lasci la bambo, se mai tu.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la nouvelle faisant état de l'assassinat d'au moins 35 civils en 3 jours à Beni. Nous avons également analysé la composition du gouvernement souminois sur fond des polémiques au sujet de son investiture. Participe à cette émission, Moïse Moussangana, il est journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est également chercheur en matière électorale. Madame Nathalie Kambala Loussé, elle est membre du cadre des consultations de la société civile du Kassai Central et elle est directrice pays de l'ONG dénommée Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral FMEDI en sigle. En ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Au Nord Kivu, de violents combats opposent depuis vendredi le FRDC rebelle du M23 pour le contrôle de la cité de Kanyabayonga. Tôt ce vendredi matin, l'armée a lancé une offensive pour reprendre le contrôle des Mirangi, Kihala et Lusuli. Ils sont présentés par des sources militaires comme des bases arrières utilisées depuis plus d'une semaine par les rebelles du M23 dans leur volonté d'occuper Kanyabayonga. ces villages qui ouvrent la voie vers Kikuku, Nyanzale, Mutanda et Kishishe dans les territoires de Rutshuru sont situés à plus ou moins 30 km de Kanyabayonga qui reste toujours sous le contrôle de FRDC. L'armée cherche ainsi à contrôler Mirangi, Kiala et Lusuli pour, affirmer des sources militaires, couper tout appui aux troupes rebelles positionnées à une dizaine de kilomètres de cette commune rurale stratégique du territoire de Lubero. Moïse Msangana, vous avez souhaité nous parler de ces combats, n'est-ce pas, qui opposent depuis plus d'une semaine les FRDC et les M23 pour le contrôle de Kanyabayonga. On vous écoute.
Oui, vous savez que ça fait 2 ans maintenant qu'il y a résurgence des hostilités dans le nord Kivu, plus précisément dans ce qu'on appelle le Petit Nord, ça veut dire Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, et qu'il y a le Grand Nord, de l'autre côté, vous avez Beni, Butembo, Lubero, mais entre les deux, vous avez Kanyabayonga. Donc, après avoir harcelé les forces loyalistes pour avoir Goma en faisant sauter le verrou des Sake, ça a pris du temps et ça n'avance toujours pas. Et vous savez que il y a toujours des bombes qui sont lancées et qui tombent sur les populations. Dernièrement, c'était dans un camp de réfugiés avec tous les dégâts qu'il y a eu. Mais Kanyabayonga, c'est aussi un verrou pour ne pas aller vers le Grand Nord. Et quand on est au Grand Nord, c'est-à-dire que on va vers l'Ituri. C'est-à-dire qu'après avoir essayé de prendre Goma avec beaucoup de difficultés, ça marche pas. Les rebelles sont tentés de passer par le Grand Nord pour aller en Ituri. Donc ils veulent étendre leur contrôle de terrain en allant vers l'Ituri. Donc, mais pour arriver vers l'Ituri, il faut faire quoi? Il faut arriver à Beni, il faut arriver à Butembo. Mais avant d'y arriver, il faut faire sauter le verrou de Kanyabayonga. C'est ça les enjeux de combat qu'il y a là-bas.
Moïse Msangana, on a l'impression que les pressions qui sont faites, n'est-ce pas, à l'endroit du Rwanda ne suffisent pas pour faire reculer les M23 et ainsi que son soutien le Rwanda.
Vous savez, parce que in fine, le Rwanda avec ses supplétifs du M23 pense, je suis sûr que il y a des négociations qui interviendront éventuellement. Alors, il faut gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'espace. Et en ce moment-là, on pèse beaucoup plus. Vous voyez, ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas sortis du Petit Nord. Ça voudrait dire qu'il y a aussi quelque chose qui a commencé à changer dans les chefs de nos forces armées, même s'il y a encore beaucoup à faire. Parce que autrefois, quand vous reculez un peu, voir l'histoire de l'AFDEL, c'est en 6 mois qu'on a pris tout le pays. Mais avec les CNDP et consorts, on n'est pas sorti même de la province du Nord Kivu. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le contexte semble changer. Les forces armées de la République démocratique du Congo, d'il y a quelques années, ce ne sont plus les mêmes forces. Ce sont des forces qui sont en train de reprendre quand même un peu de puissance. Il faut encore beaucoup de soutien, beaucoup d'appui à ces forces pour que finalement elles remplissent leur vocation. Donc je voudrais dire que j'ai choisi ce texte pour pouvoir faire voir aux autorités, tant civiles que militaires, que le verrou de Kanyabayonga doit valoir autant que le verrou de Sake. Parce que si le verrou de Kanyabayonga est défait, la porte est ouverte pour les assaillants, pour le nord, le Grand Nord. Merci. Et ils ont en perspective le tourisme et ils peuvent maintenant penser à la réussite de leur aventure. Donc il y a beaucoup de choses que notre gouvernement doit faire, mais malheureusement, le gouvernement patauge encore dans la boue avec toute cette situation que nous venons de déplorer.
Merci Madame Nathalie Kambala. Nous savons l'intensification des combats pousse des milliers de personnes à abandonner leur village, s'ajoutant ainsi aux nombreux déplacés qui traversent des moments très difficiles. À votre avis, que devrait faire le gouvernement face à cette catastrophe humanitaire, Madame Nathalie Kambala-Lousset?
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est le moment que le gouvernement devait mettre à cœur la situation d'insécurité à l'est de notre pays, arrêter leur clivage, arrêter leur frustration, arrêter ces distractions et prendre déjà des dispositions adéquates pour sauver nos sœurs, nos frères, nos enfants qui sont à l'est du pays. Parce que vous voyez comment on vient de présenter un peu la situation, ça laisse à désirer. C'est une situation vraiment qui continue à endeuiller la population innocente. Et cette guerre barbare, vraiment, c'est un grand défi que le gouvernement devait prendre à cœur. Moi, je pense que si le pays était calme, on devait vraiment vivre ces guerres sur l'investiture, soit la composition du gouvernement. Dès lors que le pays déjà a une situation d'insécurité, je pense que c'est parmi les priorités de priorités. Et c'est un défi que nous lançons à la ministre, la première ministre, ainsi que tout son gouvernement, vraiment, qui est la paix, qu'on renforce vraiment l'équipe qui est à l'est, les militaires qui sont à l'est. S'il y a des militaires qui n'ont rien à foutre à la capitale ou dans d'autres provinces, je pense qu'on devait aller renforcer les équipes qui sont à l'est, parce que déjà, dès lors que le pays est entamé, nous pensons qu'il y aura une crise, et cette crise-là va entamer beaucoup des secteurs de la vie quotidienne des populations. Donc, pour moi, je pense qu'on n'a pas le temps à perdre. Le gouvernement devait déjà prendre des dispositions pour attaquer l'insécurité, pour protéger la population. Et je voulais aussi interpeller, lancer un cri d'alarme à toutes les agences des Nations Unies, aux organisations, aux bailleurs, vraiment, de voir la situation. C'est vrai, le silence coupable de la communauté internationale nous inquiète un peu. C'est vrai, au niveau de la réponse humanitaire, nous sentons comment on se mobilise dans les salons, dans les ambassades, dans des pays, par les donateurs, les bailleurs, pour appuyer l'Est. Mais ça fatigue aussi. Il faudra que le pays, le gouvernement, prend en charge la sécurité de sa population pour que notre pays nous vienne en aide. Dès lors qu'il y a de l'insécurité, même les personnes qui viennent en aide ne sauront pas arriver là où il y a des personnes en détresse, les communautés en détresse, les déplacer. À un certain moment, on sent que les politiques sont un peu distraits pour le poste, pour le pouvoir, pendant qu'il y a nos frères, nos sœurs. Aujourd'hui, c'est les examens d'État. Est-ce que ces enfants n'ont pas présenté les examens d'État? C'est la fin de l'année. Est-ce que les enfants ont étudié en bon uniforme? Les femmes qui sont enceintes, les filles, tout ça, toutes ces situations-là, laissent un peu à désirer. Je pense que nous tous, on doit se mettre debout, les humanitaires, les agences des Nations Unies, les personnes de bonne volonté, vraiment, que leur regard soit fixé à l'Est et que le gouvernement puisse donner le go, ses responsabilités pour mettre fin à cette situation qui laisse à désirer dans notre pays.
Merci, Louis Magloire Kemayou. Au vu de cette escalade, ne peut-on pas se poser la question de savoir que valent encore les processus de Nairobi et de Luanda?
Non, on peut se poser toutes les questions et ce serait de façon légitime parce que quand on pose des actes, on doit être évalué et être honnête dans l'évaluation pour dire si on a réussi, si on a échoué et si on n'a pas réussi, voir comment on rectifie le tir pour que la prochaine fois, on s'y prenne mieux. Mais le fait est qu'aujourd'hui, au regard du pourrissement de la situation, l'on a l'impression que la situation à l'est de la RDC n'intéresse personne. Il y a des déplacés intérieurs, il y a des déplacés qui ont dû partir dans les pays voisins. On en est à plus de 5 millions de personnes qui ont déjà bougé, ne concernant que la partie du Nord Kivu. Ça fait beaucoup pour un pays. C'est presque la population d'un pays comme le Gabon ou le Congo-Brazzaville. Ça fait beaucoup. Et je crois que quand on est face à des drames humains aussi importants, on ne peut pas se comporter en Ponce Pilate ou bien détourner le regard pour regarder ailleurs. Nous avons vu en Europe comment cela s'est passé dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, comment les pays européens, comment la résistance ukrainienne s'est organisée et a été appuyée par les États-Unis, l'Union européenne et les partenaires de l'OTAN. Nous avons vu également comment, malgré la situation compliquée aujourd'hui dans les territoires palestiniens, une certaine forme de résistance s'organise à l'international pour que l'on prenne conscience que c'est un drame humain qui a cours dans cette partie du monde-là. Donc je pense qu'au niveau de la RDC également, il faudrait qu'on arrive à faire entendre que c'est un drame humain qui est en train de de se dérouler depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et que si rien n'est fait, déjà lors des dernières élections, il n'y a pas pu y avoir de consultation dans certaines parties de ces territoires-là, ce qui est quand même déplorable, ce qui signifie qu'ils ne sont plus, ils ne font plus partie de fait du territoire. Il faudrait que l'on en arrive finalement à dire, l'union sacrée consiste à dire qu'il n'y a pas de sous-Congolais, il n'y a pas des Congolais privilégiés par rapport à d'autres. Et si le sentiment aujourd'hui existe qu'il y a des Congolais qui sont privilégiés, c'est par rapport à la manière dont la sécurité est assurée dans ces territoires-là. C'est par rapport à la manière dont cette sécurité n'est justement pas assurée à une grande partie de la population. Et je crois que c'est le devoir des autorités de ne pas simplement politiser ou instrumentaliser la situation à l'Est, mais de la prendre à bras le corps et de trouver le bon discours pour à la fois mobiliser les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources diplomatiques pour régler de façon définitive le problème. Et moi, je suis simplement à la fois sidéré et inquiet de constater que malgré le temps qui passe, malgré les attaques répétées, malgré les personnes déplacées, la détresse humaine créée, c'est comme s'il ne se passait rien. La vie se passe très loin du Rutshuru, très loin de Goma, très loin de... Tout se passe comme si ça ne faisait pas partie de nos souffrances et que c'était normal que les gens vivent dans ces conditions-là. Ce n'est pas normal. Et j'espère que les nouveaux politiciens, le nouveau gouvernement et la classe politique dans son ensemble réussira à créer véritablement une union sacrée, non pas pour des places au gouvernement, non pas pour des places à la fois dans le Parlement provincial ou national, mais pour régler ce problème qui est un problème d'intérêt à la fois national pour la RDC, mais sous-régional pour l'Afrique de l'Est, et également sécuritaire global pour l'ensemble du continent africain, parce que la RDC a des voisins, c'est un pays qui a quand même plus de 8 voisins, c'est très important. Déstabiliser un pays comme celui-là ou le laisser dans un état de déstabilisation ne rend service à personne. Donc c'est mon cri du cœur, j'espère qu'il sera entendu et j'espère surtout que ceux qui ont les capacités d'agir et d'influencer la marche de la situation dans cette partie de la RDC feront ce qu'il faut pour que la situation change en bien pour les populations.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Colecta de Samangwana et on revient juste après.
Kinga ina mobembo koko butu ya suka tomona nite na luka kia mingi na moni yote na teko lala na mona kise beleta mwana bato kaye bakala tamina koko bako yana mwena ngapo tuna nisanite Sekinda imingi na baninga Nalibongo pamoni yote Nisala kinga soni Yangana yoma bazu la koleta
Koko, Boningoyo, Nelukila kanga Dea
Katomona nite Na luka kia mingi Na moni yote Na keiko lala Na mona kise beleta Mwana bato Kaye bakala Samina koko bakoyana Mwena nakosuna Ezalite Pase kinga imingi Na baninga Nali bongo Bamoni yote Sous-titrage Société Radio-Canada biso nazali se na dom kafe na longola basusi ekokondisa ngai uko amua lokoleta nasepela nini ngai mwana mama kisangani mosika baboti yo koko nasolola ngai na nani mama misemake yangu swahili nakanisi mingi ngai mwana papa tongo nyonso nazali se na dom kafe nalongola basusi ekokondisa ngai uko amua lokoleta
C'était Coletta, du célèbre artiste et musicien Samangwana, chanson sortie en 1969 dans l'orchestre Le Festival des Matizars. Samangwana a totalisé 79 ans d'âge en février dernier. Je rappelle que nous avons dans cette émission Moïse Moussangana, il est journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est également chercheur en matière électorale. Il y a également Madame Nathalie Kambala-Loussé, elle est membre du cadre de concertation de la société civile du Kassai Central, et les directrices pays de l'ONG dénommée Femmes main dans la main pour le développement intégral FMEDI en sigle, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais et il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Le parti Leadership et Gouvernance pour le développement LGD en sigle a organisé du 30 mai au 1er juin son conclave à Kinshasa. Invité des radios Capi, le président de cette formation politique, Augustin Matata Ponyo, propose le remplacement de la Commission électorale nationale indépendante CENI par une structure internationale. Il est convaincu que le recours à cette institution permettra au pays d'organiser des élections transparentes et équitables. Louis Magloire Kemayou, vous avez souhaité nous parler de ce sujet. On vous écoute.
Oui, je crois que l'interrogation de l'ancien Premier ministre, M. Matata Ponyo, elle est tout à fait légitime de se dire, quand on a organisé autant d'élections et qu'à chaque fois, l'une des raisons pour lesquelles les résultats des élections étaient contestés, c'était que la commission électorale nationale indépendante ne faisait pas l'unanimité sur sa compétence, on peut se poser des questions de savoir s'il faut maintenir cette structure ou s'il faut la placer sous tutelle d'une organisation internationale ou alors en placer les Congolais qui sont par des personnes plus neutres qui pourraient être des voisins ou des étrangers encore plus lointains dans la gestion. C'est à la fois une bonne idée et une fausse bonne idée, pour plusieurs raisons. La première étant que si la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance et qu'aujourd'hui elle est fière de cette indépendance et des attributs qui vont avec, il n'y a pas de raison que l'on mette sur la touche une partie des compétences du pays quand il s'agit d'organiser les élections. Sinon, il faudrait également choisir d'aller prendre des politiciens ailleurs pour leur demander de diriger le pays parce qu'on estime que ceux qui sont venus ont échoué et donc peut-être qu'il faudrait essayer un étranger et que cela pourrait porter des fruits. Donc pour moi c'est une fausse bonne idée d'abord pour cette raison-là. Ensuite maintenant, quand on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On a tout dit mais en même temps on n'a rien dit parce que la vérité c'est qu'il faut qu'il y ait un organisme qui organise les élections et que cet organisme soit au-dessus des partis, pour qu'il n'ait pas une tendance à prendre parti pour l'une ou l'autre des parties prenantes dans le jeu électoral. Et pour cela, je crois qu'il faudrait que ce soit un organisme plutôt technique, avec des spécialistes reconnus pour leurs compétences en matière d'organisation d'élections, et éventuellement, si on estime que, comme cela s'est vu au sein de la CEDEAO, on peut faire des échanges entre les pays qui entourent la RDC et qui appartiennent aux communautés d'intégration régionale, comme la RDC, si on peut apporter un plus en les intégrant dans la dynamique, pourquoi pas le faire? Mais je suis personnellement opposé à la dynamique qui consisterait à dire qu'on peut remettre aujourd'hui sous tutelle des pays africains qui sont indépendants, qui ont aujourd'hui beaucoup plus de personnel qualifié dans la gestion des tâches quotidiennes de l'État qu'il n'en avait il y a une soixantaine d'années. On ne peut pas, malgré toutes ces avancées-là, considérer que la seule solution qu'il nous reste, c'est d'aller chercher des spécialistes à l'extérieur pour régler nos problèmes, même si nous avons des différends et que ces différends, par moments, paraissent insurmontables pour moi, il y a un sursaut d'orgueil qui doit faire que l'on en arrive finalement à dire ce sont des problèmes congolais, prioritairement ce sont les Congolais qui doivent les résoudre, et même s'ils ne le font pas bien, ils arriveront à rectifier au fil du temps. C'est pas que la palabre permettra finalement d'obtenir une solution, mais que c'est une affaire de linge sale qui se lave en famille.
Merci Moïse Moussangana. À votre avis, quel peut être le mérite de cette proposition de Matata Ponyo qui propose que l'on puisse remplacer la Commission électorale nationale indépendante par une structure internationale?
Bon, mais cette proposition désacralise Matata Ponyo dans la mesure où il passe pour le champion du leadership. Je ne comprends pas un leadership congolais qui est assumé par les étrangers ou à partir de l'étranger. Je ne sais pas ce que ça signifie.
Oui, parce que l'expérience des commissions électorales nationales indépendantes semble avoir montré ses limites, pourquoi n'est pas
avec cette expérience? Non, parce que chaque politicien, oui, je voulais dire ceci, chaque politicien, quand il est au pouvoir, il met d'ailleurs cette commission dans des conditions telles que cette commission-là ne réalise pas très bien son travail. Matata était premier ministre. Vous savez que avec Matata, nous avons connu ce que nous appelons glissement. C'est Matata, parce que Matata avait commencé à insécuriser financièrement la Commission nationale électorale indépendante. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais vous pouvez jeter un coup dans votre rétroviseur. Vous allez voir que Matata, à un moment donné, a été même incapable de sortir $1 million pour pouvoir organiser certains préparatifs aux élections, disant que ce n'était pas prévu au budget. Lui, Matata, premier ministre, il a dit ça. Donc, ça voudrait dire que Matata lui-même n'a pas su mettre cette commission dans des conditions de faire un bon travail. On peut bien prendre des étrangers, mais si on n'arrive pas à faire en sorte que le facteur qui ont toujours fait que nos élections tournent en rond, si on n'arrive pas à éliminer ces facteurs, on va toujours tourner en rond. Donc, ce que Matata a dit, c'est juste pour jeter de l'opprobre, pour dénigrer le pouvoir qui est en place suite aux élections qui se sont passées en 2023. Donc, si Matata n'a pas été capable en son temps de faire quelque chose pour que les élections soient ce que nous attendons effectivement de ces élections, je crois qu'il est en train de jeter une pierre sur les autres pour rien. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que ces élections-là se terminent en cul-de-sac pratiquement. Il y a toujours des facteurs qui sont aussi politiciens qui font que ces élections pataugent, ces élections donnent l'image que nous connaissons d'elles. Donc, je préfère dire que Matata a mieux à proposer que ce qu'il a osé dire.
Merci. Voilà ce que je peux dire. Merci, Madame Nathalie Kamala-Loussé. Nous allons finir cette émission avec vous. Finalement, ça peut être quoi l'organe idéal de gestion des élections dans les pays africains? Allô, Madame Nathalie Kamala, apparemment elle n'est pas là. Louis Magloire Kemayou, ça peut être quoi l'organe idéal de gestion des élections dans les pays africains?
Moi, je crois qu'il faut en arriver à une commission électorale qui ne soit pas un organisme qui est craint, mais plutôt un organisme qui est respecté pour sa compétence. C'est-à-dire qu'elle soit capable, entre deux élections, d'arriver à organiser la vie politique à telle enseigne que quand l'élection arrive, non seulement les citoyens se disent qu'ils ont été préparés pour les inscriptions sur les listes, que les listes sont bien tenues et que les candidats eux-mêmes, quand ils apportent leur dossier, qu'ils se sentent accompagnés dans la démarche. C'est pas comme si on avait un père fouettard qui était là juste pour sanctionner les candidats qui arrivent et dont les dossiers ne sont pas bien constitués et qu'on renvoie à leurs chères études parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un dossier qui corresponde aux standards de la commission. Donc pour moi, c'est à la fois un mélange de respect et d'inclusivité, en plus de la compétence, qui ferait que la commission électorale dans chaque pays soit le produit d'un consensus national et qu'il puisse également être la fierté du pays. C'est comme si vous aviez aujourd'hui l'équipe nationale de football de RDC qui jouait quelque part. On a besoin qu'à chaque poste, chacun soit compétent pour que cela rejaillisse sur les résultats collectifs. Et c'est ce qu'on attend d'une commission électorale, qu'elle arrive à organiser des élections dont les populations et les candidats se sentiront fiers en disant « Nous avons pu organiser par nous-mêmes nos élections, nous avons choisi nos candidats, le processus s'est passé de façon irréprochable et à la prochaine élection, on remettra ça avec la même fierté et avec le même espoir d'arriver à des résultats qui nous satisfassent et qui nous montrent que l'indépendance que nous avons conquise n'a pas été un hasard de l'histoire, c'était un combat et que ce combat, nous devons continuer de le mener. » Mais pour garder l'indépendance et la fierté nationale bien protégée là où ils sont.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Louis Magloire Kimayou, Moïse Moussangana et Madame Nathalie Kambala-Loussé, malheureusement, dont la ligne téléphonique a posé problème. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sevoujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Zekira de Josar Nyokalongo dans l'orchestre Zaiko Langa Langa et on se retrouve le samedi prochain.
Zekira yota balobinati kanzela yango. Kina benda zoto Kasi motema ekoti ngama
Oiki lungu, jasu
Mota na kono kende Omema moli morangai Nyo samba la moko Papa kina kongona Kotu bela na nani Pe akai pe manyoso Yango wana Osa kosilisa Oigo basi Karana nae komilelo Bambu wanyoso Pe balila Nandenge na konyo Papa Eko yeba kaka sabe Seki rasano kiyoko ya koputa Moto basi bakuna La vérité, rien que la vérité. Tout n'a pas évasé dans la longue. On n'a pas dit qu'on s'y la sente. Non, quitte un peu au canal d'Amoué. Et quoi, à moi, si à la copie qui s'en gagne. N'a qu'un copain sans sente dans l'ensemble. Pasteur à quoi, et pas de laisser porter à l'amour. Promesse trop banda réalité.
Abika, Mwapi Ebika Shama.
Seki, mwinda ya mote, manawe ni fidelite. Bambi batuli batina na koko, dona pesa e anonini. Menda kote ke langa na moya shoti, na pemisa mabazo.